Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotec
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Jean et Marie Weisslink pour leurs témoignages qui sont parus dans la collection Témoignages de la Shoah. Après notre entretien avec Jean Weisslink la semaine dernière, nous allons nous intéresser aujourd'hui à votre témoignage, Marie Weisslink, seule à 14 ans de Ravensbrück à Bergen-Belsen, qui est paru lui il y a 2 ans dans la collection Témoignages de la Shoah, qui est la collection de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors, votre histoire est très différente de celle de votre mari, puisque vous êtes née à Toulouse, et on peut dire que vous avez vécu presque normalement pendant la première partie de la guerre, jusqu'au jour, ouais, jusqu'au jour de votre arrestation en 1944, alors que vous n'aviez donc que 14 ans.
Absolument. Je ne savais pas ce que c'était que l'antisémitisme. Tout ça, je l'ai appris par la suite. Et je vais dire quelque chose de mes parents étant libres penseurs, c'est-à-dire que quand ils sont venus de Pologne. Là, en Pologne, ils étaient de familles très religieuses. Mais quand ils sont arrivés en France, ils ont tout abandonné. Donc, je n'ai jamais vu, et puis je n'ai jamais entendu parler de juifs, d'israélites, ou des choses comme ça.
On en parle. Une génération comme ça.
Mes parents parlaient le yiddish, pour moi c'était du polonais, ils venaient de Pologne.
Et eux, ils se sont rencontrés donc en Pologne, ils se sont mariés ensuite en 1926 à Tel Aviv, c'est ça?
C'est ça. Mais maman est née à Piotrków Trybunalski, c'est-à-dire c'est en Pologne. Papa est né à Kongs. Et après, ses parents, après la guerre de 14-18, les parents de papa sont venus à Piotrków. Et bon, ils ont élevé leurs enfants. Il y avait 8 enfants parmi eux. Et papa était l'aîné. Voilà. Et comme tous les jeunes en Pologne, ils se rencontraient, ils faisaient partie d'un groupe. Et c'est comme ça que mes parents se sont connus.
Avant la guerre.
Et puis papa n'a pas voulu faire le service militaire en Pologne. Il était très pour la Palestine, parce qu'à l'époque c'était la Palestine. Et avec des amis, le jour, je ne sais pas si c'est 18 ou 20 ans, je ne sais pas, ils sont partis clandestinement en Israël, en Palestine, pardon. Mmh. Israël n'existait pas à l'époque. Et là, il a commencé à travailler, il a travaillé très dur. Et puis un jour, maman, elle a reçu une carte où Abraham Rafalovitch lui demandait si elle voulait bien venir en Israël, en Palestine, pour l'épouser. Voilà. Maman était orpheline. Ses parents étaient décédés très tôt. Mais c'était ses frères qui s'occupaient d'elle. Alors, il y a un frère qui est parti à Lodz pour faire un passeport. Elle est partie normalement. Mais d'abord, on a fait des fiançailles de mes parents. Et ça, c'est une cousine après qui m'a raconté, parce qu'elle était là également, elle a dansé justement pour cette cérémonie. Et on a fêté c'est-à-dire les parents de papa ont fait ces fiançailles avec la photo de papa sur la table.
Parce qu'il y a une correspondance. Par correspondance.
Demande de mariage par lettre.
Voilà. C'est pas croyable. Hein.
Mais oui, mais là, c'est vraiment amusant.
Avec les moyens de jour qui faisaient ça.
Mais oui, mais un frère, je crois, ne voulait pas qu'elle parte comme ça. Il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose.
Alors, ils avaient décidé à un moment d'émigrer aux États-Unis. Finalement, c'est sur le chemin qu'ils vont s'arrêter à Toulouse et qu'ils vont décider
voilà,
de s'établir.
Voilà, parce qu'il y a un frère qui avait écrit, parce que maman, elle correspondait avec ses frères. Et comme ils ne pouvaient plus travailler, il y avait une grande crise en Palestine. Alors, il lui disait, rentre en Pologne. Et il disait non, parce que mon mari, il ne peut pas.
Il n'avait pas de quoi manger. Non plus. Alors, à la Fondation d'Israël,
ils sont partis au départ. Ils voulaient partir en Amérique, mais ce fameux frère-là lui a dit, écoute, vous allez passer par Paris, par la France, puisque vous passez, il devait passer de toute façon. Allez à Toulouse, parce qu'il y avait quelqu'un qui connaissait, qui était de leur ville. et qui avaient, qui s'étaient mariés et qui étaient à Toulouse. Mmh. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis après, bon, ils sont restés à Toulouse.
Ils sont restés, c'est là que vous êtes née, c'est là que vous avez grandi. Et donc c'est là que vous allez passer ces premières années de la guerre dans une relative tranquillité. Il y a même dans votre livre un article de journal sur un de vos exploits sportifs.
Ah oui, parce que moi j'étais très sportive à l'époque. À l'époque.
Vos parents avaient trouvé des faux certificats, mais au fil du temps, puisque c'est la zone sud, hein, donc vous bénéficiez quand même de cette relative tranquillité. Mais après le débarquement des Alliés, la situation devient de plus en plus risqué. Et donc, avec votre famille, vous quittez Toulouse pour vous mettre à l'abri dans une ferme du Tarn-et-Garonne.
Absolument, absolument. Nous allons chez des amis où il y avait également d'autres personnes qui se cachaient.
Les Juifs
là.
Qui
oui, c'était. Et il y avait des Espagnols. Enfin, on était très bien là-bas. Et on était à l'ex. Nous n'étions plus à Toulouse.
Ça permettait de survivre.
Le 24 juillet, c'est-à-dire non, le 23. Le 23 juillet, papa me demande d'aller chez nous, à Toulouse, pour faire une course. Voilà.
Bon, 23 juillet 1944.
Du moment qu'on me parle, pardon.
1944.
En 1944, le 23 juillet, je dis bien.
Un mois avant la libération.
Alors, c'était le dimanche. Le lundi, je m'habille, je prends, parce qu'il fallait pas, ça faisait assez loin, je prends le car, après le train, et je fais la course. Et je suis allée chez nous, 4 rue Sainte-Catherine, là où nous habitions. Là, dans la rue, je rencontre un camarade, qui était le meilleur camarade de mon frère, d'ailleurs. Et nous commençons à parler. Et puis, nous rentrons chez nous, enfin, chez moi, ouais. Pardon, dans la cour. Et nous parlions, nous discutions. Et à un moment donné, il y avait un grand couloir qui était fermé par une porte. Cette porte s'ouvre et deux personnes arrivent, deux hommes. Un blond, un grand blond et un brun, l'autre plus petit. Le blond n'a pas dit un mot. C'était le deuxième qui s'est adressé directement à moi en disant « Mademoiselle Rafalovitch ». Et si ça avait été l'autre, il parlait, qui était un Allemand, j'aurais peut-être eu des soupçons, ça m'aurait, je sais pas, interloqué. Et lui, non, et moi, comme une sotte, tout tranquillement, je dis oui. Et puis voilà, ça a été terminé.
Oui, tu n'avais pas eu et la présence c'était... d'esprit.
Mais non, je ne l'ai
français,
pas eu. Je l'ai
un
pas
français,
eu.
Français, vous ne vous êtes.
Pardon.
C'était un français, donc.
Non, c'était un Belge, mais qui travaillait avec la. Oui. Qui travaillait avec la milice française. C'est-à-dire qu'il y avait le milicien et l'allemand qui sont venus m'arrêter. Et bon, après, ils m'ont encadré et nous sommes allés à la maison, à la Gestapo, qui était pas très loin d'ailleurs.
Ils savaient qui vous étiez parce que vous avez été victime d'une dénonciation.
Absolument.
Donc,
absolument. Ça, nous l'avons su par la suite. Enfin, c'est mon père. C'est papa qui a essayé de comprendre comment ça se fait. Pourquoi ils sont venus, puis pourquoi le lendemain, après, la milice est venue à vider tout l'appartement. Enfin, ça s'est enchaîné comme ça.
Et 15 jours... Parce que vous avez refusé de parler. Ils vous ont demandé, évidemment, où étaient vos parents.
Ah ben naturellement, ça ils m'ont demandé, mais bon, j'avais fait...
Vous étiez consciente tout à fait
Ben, c'est-à-dire j'avais fait une bourde, une très grande bourde, mais j'allais pas en refaire une deuxième. Ça c'est comme après, quand on m'a amené à la caserne Caffarelli, où là il y avait plein de familles juives avec des enfants, il y avait de tout, et celle qui s'occupait de nous, qui était représentante auprès des Allemands, un jour elle me dit, tu sais Marie, si tu veux écrire à tes parents, tu me le donnes, je l'ai regardé, j'ai dit oh non, je ne sais pas, mais j'allais pas encore lui donner une lettre pour... Là, ça aurait été vraiment, c'est que j'aurais été inconsciente jusqu'au bout. Bon, j'ai été une fois terminée.
Ça, tout s'est passé très vite ensuite. C'est-à-dire que vous êtes arrêtée donc le 24 juillet, vous avez 14 ans, donc à ce moment-là, seule. Et quelques jours plus tard, le 30 juillet, donc comme le disait Rachel, un mois avant la libération, vous faites partie du convoi numéro 81.
Oui, qui est parti de Toulouse, de la gare Rénale.
Pour Ravensbrück.
Bon. C'est-à-dire, normalement, personne n'était inquiet. Parce qu'on savait que les Alliés avaient déjà débarqué. Le chemin normal devait être Drancy. Alors nous, d'abord, bon, on est parti dans le train, enfin dans les wagons, les wagons à bestiaux. On va à Drancy. Mais après, progressivement, on s'est aperçu. Et puis alors, comme ça a duré très longtemps, ce voyage. Parce que les wagons... Il n'y avait pas de place. On faisait passer d'abord les soldats pour qu'ils aillent en Normandie. Et puis, à un moment donné, ceux qui regardaient, vous savez, dans les wagons à bestiaux, il y a des petites ouvertures. Ils regardaient et puis on passait devant des gares et ils se sont aperçus que ce n'était plus les caractères français. Ouais. C'était les caractères allemands. Alors, c'est là où on se dit, bon, où c'est qu'on va. Voilà. Et là... Il ne faut pas oublier, nous étions au mois d'août. Il faisait très chaud. De l'eau, je ne sais pas s'il y en avait tellement. Enfin, premier épisode pour moi, je me suis évanouie. Pourquoi ? Comment ? C'était la première fois. Bon, alors voilà, ça c'est mon voyage. Mon voyage dans le train, parce que du mal-être, de la promiscuité, de la chaleur. Bon. Et puis, une nuit, le train s'arrête. On entend les portes s'ouvrir, ça commence à crier. Vous savez, ces accents allemands, gutturales, là, très durs. On ouvre les portes, on voit une gare très mal éclairée, à peine éclairée, des soldats tenant leurs chiens. Des capots, des hommes, hein, avec les rayures, le pyjama. Alors, tout le monde devait descendre. Tout le monde descend. Les femmes, les enfants, les vieillards, tout ça d'un côté, et les hommes, les adolescents, de l'autre. On les met par cinq, et puis on les voit partir. Là, nous étions à la gare Weimar. Nous l'avons su après. Hein, là, ce que je vous dis... Une fois qu'ils sont partis, on nous a fait remonter dans les wagons. Là, ça y est, on avait un peu de place. Et nous sommes repartis. Nous avons voyagé encore 2 jours, jusqu'au moment où nous sommes arrivés à une autre gare. Mais là, c'était en plein jour, tranquille. On nous a fait descendre. Nous sommes partis, nous, à pied. Moi, j'allais toujours avec les jeunes filles. Là, je ne sais pas, instinctivement, si vous voulez. Je n'allais pas avec les personnes âgées, ni avec les mères. Parce que les mères, d'abord, s'occupaient des enfants. Elles n'avaient rien à faire avec moi. Et là, on a marché. Et on a marché on a traversé un village très coquet. Puis nous sommes arrivés dans un... Pourquoi je vous raconte ça ? Nous sommes arrivés dans une forêt, et puis il y avait des lacs. Il y avait des lacs de chaque côté. Et là, je me rappelle très bien, il y avait des genres de des villas ou des baraques et tout ça. Et on voyait des personnes en train de se baigner. Nous étions au mois d'août. Ils prenaient du bon temps. Mais on n'était pas inquiets. Mais vous vous rendez compte, on va travailler. Bon, d'accord, mais c'est très bien comme coin. Et puis on a commencé à un peu plus avancer. Oui, on avait confiance.
Paysage de carte postale.
Oui, absolument. Mais pourquoi je vous raconte ça ? Parce que par la suite, je me suis toujours posé la question. Je me disais, mais quand même, ça c'était des gardiens des camps, du camp.
Là, les celui-là. Gens qui étaient là dans ces maisons ?
Eh bien oui.
Ils travaillaient dans le camp.
Ils travaillaient, et même après, quand on était à Bergen-Belsen. Alors, ils étaient dans le camp. Ils voyaient ce qu'on nous faisait. Comment nous vivions. Ils participaient aussi. Et après, une fois que leur travail, entre guillemets, était terminé, ils rentraient chez eux, dans leur famille, et ils vivaient la vie normale. C'est une chose que je n'ai jamais compris. C'est pour ça que je raconte cet épisode. Ben, je traverse, je vois un lac d'un côté... De l'autre, des arbres, parce que Ravensbrück a été construit sur des marécages. Donc, il restait. Et je me disais, mais après, mais ils ont encore le courage de vivre normalement. Et après la libération, de dire qu'ils ne savaient pas. C'est ça que je me suis toujours posé comme question.
Vous avez pu échapper aux travaux forcés à Ravensbrück, c'est ça qui vous a sauvé la vie, c'est que vous n'aviez que 14 ans et du coup, vous avez été dans le groupe des enfants.
J'étais dans le groupe des enfants, c'est ce que j'ai toujours essayé. Et puis,
Vous avez créé des liens aussi. Je pense notamment à Mimi Tayad, c'est ça.
Et bien, Mimi, je l'ai raconté. Puis alors, ce qui était amusant, parce que je ne la connaissais pas, mais c'était la tante du copain avec qui j'avais été arrêtée.
Ah oui, c'est une Toulousaine également.
C'est une Toulousaine. Ouais. Et vous savez, quand on est enfant, il y a des choses qui frappent comme ça. Bon, nous étions en quarantaine quand nous sommes arrivés à Ravensbrück. Et alors, dans le camp, quand on a entendu des Françaises et puis de Toulouse, toutes les Toulousaines sont venues pour voir si elles connaissaient des personnes et tout ça. Et là, à un moment donné... Il y a une personne qui est là, qui commence à parler, son foulard, parce que toutes les femmes là-bas, elles avaient des foulards. Elle commence à parler, à discuter, je suis de Toulouse et tout ça. Bon, ça ne m'intéressait pas spécialement. Mais juste là, et puis cette femme se met à sourire. Ça a fait-il dans mon esprit? Pourquoi? Parce que, quelque temps bien avant, elle était venue, il y avait ses parents qui habitaient dans la même rue, où nous habitions, avec mes parents, rue Sainte-Catherine. Elle tenait un café qui était pas très loin. Et elle venait voir ses parents avec deux chiens, parce que son mari était chasseur, une femme très élégante. Et puis il y avait ce garçon avec mon frère, qui juste était là. Alors elle s'est arrêtée, avec Roland et mon frère, et elle a commencé à parler. Et moi j'étais pas loin, et je l'ai vue sourire. Elle avait plein de dents en or. Mais moi ça m'a tellement frappée, ces dents en or là, que ça m'était resté dans l'esprit. Et je vois ce même sourire à Ravensbrück. Là, je regarde, je dis, c'est pas possible. Et je me suis approchée de la fenêtre, parce que tout se passait par fenêtre, et je commence, et c'est moi qui ai commencé à l'interroger. Je lui ai demandé, maintenant je ne me rappelle plus, et puis je lui ai dit, vous savez, je suis la sœur de Jackie. Elle a ouvert des yeux, et puis c'est comme ça que, naturellement, et surtout, je lui ai parlé de son père, de ses parents.
Que vous connaissiez, donc.
Voilà, parce que son père était d'origine juif russe. Et elle avait toujours peur quand elle a été arrêtée avec son mari, parce qu'elle faisait beaucoup de résistance, qu'à travers elle, on touche son père. Et c'était ça, sa hantise. Et quand moi je suis arrivée et que je lui ai parlé, que je dis non, il n'y avait absolument rien, alors là je crois qu'elle m'aurait donné tout ce qu'elle aurait pu, tellement elle était heureuse. Et c'est comme ça, ça a été la première personne qui vraiment s'est intéressée à moi. Et là j'ai connu vraiment la véritable solidarité.
Il y a une seconde étape. Ça c'est début janvier 45, vous partez à nouveau à pied et en wagon découvert, donc là aussi c'est le plein hiver, vous partez pour Bergen-Belsen, et là ce que vous allez découvrir est encore pire que ce que vous avez vécu.
Je vais dire même une chose qui est vraiment qui est forte, mais dans mon esprit, quand je pensais à Ravensbrück, je pensais paradis et enfer, vous voyez, ça a été parce que Bergen-Belsen, on ne peut pas s'imaginer. Et même maintenant, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que tout le camp a été brûlé entièrement au lance-flammes par les Anglais. Donc, on ne peut pas s'imaginer...
Pour les maladies, c'est ça?
Pardon?
Pour éviter la
propagation des maladies. Et puis, de la vermine aussi. Il y avait tout ce que vous voulez.
Mais ils allaient un peu fort aussi, je ne sais rien.
Je ne sais pas. Ça a été brûlé.
De toute façon,
ça a été brûlé au lance-flammes. Une fois que tous les déportés sont partis, ceux qui étaient malades, on les a amenés à l'infirmerie, et les autres, on les a amenés dans une caserne, les autres dont je faisais partie. On nous a amenés dans une caserne de la Wehrmacht qui n'était pas loin de Bergen-Belsen. Et là, après, ils ont tout brûlé, le camp. Il ne restait absolument rien. Donc, on ne peut pas s'imaginer. Autour de nous, il n'y avait que la mort.
Des épidémies.
Il n'y avait que la mort, l'épidémie, voilà.
Et c'était dans le plan.
Donc, c'était deux choses. C'était vraiment le camp d'extermination, je dirais pas par la nature, par le...
Parfait à 100%. Voilà.
J'aurais une dernière question pour vous, Marie. Comment vous avez vécu ce retour? Parce que vous avez dans votre histoire, cette particularité qu'au sein de votre famille très proche, votre famille nucléaire, vous êtes la seule à avoir été déportée. Donc j'imagine que ça a été certainement plus facile pour vous de retrouver évidemment votre famille au retour, mais le fait de ne pas avoir vécu la même chose qu'eux, comment vous l'avez vécu ça?
C'est-à-dire, je n'ai eu aucun, je n'ai pas eu de problème, comme il y en a beaucoup qui sont arrivés, qui n'avaient plus rien, qui ne savaient pas où aller. Moi, je suis même pas restée à l'hôtel du Tessia.
Oui, vous racontez, c'est incroyable.
Je ne suis même pas restée là.
C'était hors de question pour vous quand on vous a dit il y a un hospice, vous allez dormir
oui,
là.
Oui, moi, ce terme hospice ne me plaisait pas. Bon, mais quand je suis revenue. C'est-à-dire que d'abord, on m'a posé des questions. J'ai essayé de répondre, mais personne ne m'écoutait. Ne serait-ce que mes parents ne m'écoutaient pas.
Ils ne pouvaient pas.
J'ai mis ça sur le compte de papa.
Ça dépassait pas. Ça dépassait l'entendement.
Voilà. D'abord, papa, il devait penser, il avait ses parents, il avait ses frères, mais surtout ses parents. Il devait avoir énormément de chagrin. Bon, lui, il savait que j'étais là. D'ailleurs, pendant l'année où je n'étais pas, je ne suis pas, je n'étais, j'étais déportée, il n'a pas travaillé, il n'a pas voulu travailler, et il avait dit, je ne resterai pas en France si ma fille ne revient pas. Voilà. Il avait dit, le pays des droits de l'homme, on permet que des enfants soient déportés. Moi, je ne reste pas là. Donc, il ne m'écoutait pas. Maman, ça a été un peu pareil parce qu'elle avait ses frères, elle avait ses neveux. Mais tous, miraculeusement, elle avait trois frères. Non, un était en Palestine. Elle avait deux frères qui sont restés vivants. Mais il y avait le frère aîné, toute sa famille a été déportée, sa femme, les enfants et tout ça. Et puis je sais pas pourquoi, d'ailleurs je n'ai jamais cherché, elle disait, les Juifs français n'ont pas souffert, elle faisait la comparaison
avec la Pologne.
Oui, voilà.
Ce qui est vrai, objectivement, par rapport.
Voilà. Donc, si vous voulez, autour de moi, je n'avais personne avec qui parler. Mmh. Avec qui je parlais, avec Mimi quand elle est revenue. Elle est revenue, son mari n'est pas revenu. Et avec les amis que j'avais eus.
Les camarades de Ravensbrück.
Qui étaient déportés avec moi. Mais c'est tout. Mmh. Autrement, je ne parlais pas. Donc, je me suis renfermée. Et puis, j'ai essayé de recommencer et d'oublier cette période.
Je vous remercie beaucoup, Marie Weisslich et Jean Weisslich, d'être venus nous parler tous les deux de ces témoignages. Marie Weisslich, je rappelle que votre livre « Seul à 14 ans » de Ravensbrück à Bergen-Belsen est disponible dans la collection « Témoignages de la Shoah », ainsi donc que le livre de Jean, du fond de ma mémoire, « Entretien avec un survivant de la Shoah en Pologne ». Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou Mémoire Vive au pluriel. Point net.